France Culture, les petits matins, Dany Legras.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 4 décembre, vous êtes sur France Culture. Nous allons rester ensemble pendant une heure. Je vous propose une petite citation à prendre ou à laisser pour démarrer cette nouvelle semaine. Un livre est une collaboration entre celui ou celle qui lit et ce qui est lu. Et dans les meilleurs des cas, cette rencontre est une histoire d'amour comme une autre. Siri Oustved. Bon réveil à tous, il est 6h, les premiers titres de l'actualité avec Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Dany, bonjour à tous. Et le trafic ferroviaire a repris ce matin à Paris en gare Montparnasse. Une panne énorme y avait complètement paralysé la circulation des trains hier. Selon la SNCF, le problème de signalisation viendrait d'un bug informatique. Inacceptable, répond la ministre des Transports Elisabeth Borne, qui convoque ce matin à 9h le PDG de SNCF Réseau. Au mois de juillet dernier déjà, une autre panne avait entraîné de fortes perturbations dans cette même gare, surtout le réseau du Grand Ouest. Large victoire de la coalition nationaliste en Corse après le premier tour des élections territoriales. Elle a recueilli hier un peu plus de 45% des suffrages, soit 10 points de plus que lors de sa victoire en 2015. L'indépendantiste Jean-Guy Talamoni y voit un signal fort envoyé à Paris et l'occasion d'ouvrir des discussions. Discussions concernant notamment la co-officialité de la langue corse ou encore l'amnistie des prisonniers dits politiques. Les nationalistes devancent de loin la liste du candidat de la droite régionaliste. Le parti Les Républicains arrive troisième, suivi de la liste La République En Marche. Second tour prévu dimanche prochain. Lui est passé par un référendum non reconnu pour faire valoir l'indépendance de sa région. Le catalan Carles Puigdemont, toujours retiré en Belgique, il comparaît aujourd'hui pour la deuxième fois devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le président destitué de la Catalogne est poursuivi pour rébellion, sédition et détournement de fonds publics. Lui et quatre anciens membres de son gouvernement font l'objet de mandats d'arrêt européen émis par Madrid. L'audience à Bruxelles coïncide avec une autre étape judiciaire très attendue en Espagne. Le juge doit libérer ou non 10 dirigeants indépendantistes emprisonnés depuis un mois maintenant. Et puis la journée de négociation à Bruxelles à propos du Brexit s'annonce cruciale aujourd'hui. La première ministre britannique Theresa May va tenter de convaincre les Européens que ses promesses sont désormais suffisantes. C'est la question de la frontière avec l'Irlande du Nord qui pose toujours problème.
Merci beaucoup ma chère Clara, on vous retrouve à 6h30 pour votre journal.
À tout à l'heure.
Bienvenue dans Les Petits Matins. Cette émission est réalisée par Midia Portis-Guerrand avec à la technique Yanis Djoudad, pour la rédaction Martin Desclozeaux et au droit d'auteur Raphaël Bizikiem. Au programme dans Les Petits Matins, vous retrouverez le journal des idées de Jacques Meunier à 6h40, les enjeux internationaux de Xavier Martinet à 6h45, l'humeur du jour de Guillaume Herner à 6h57 et le journal de Clara Lecoq-Réal à 6h30. L'image du jour de l'humanité, signée Charles Platiot, montre la plus grande course de paddle au monde avec cette année 700 participants qui ont parcouru hier à 8 degrés dans l'eau et 0 à l'extérieur, 13,5 km sur la Seine, entre la Bibliothèque nationale de France dans les 13e arrondissement et les quais de Javel dans les 15e arrondissement. Bravo aux courageux! Selon les Parisiens, le bébé panda du zoo de Beauval dans les Loir-et-Cher, aujourd'hui âgé de 4 mois, s'est rebaptisé en grande pompe. Sa marraine, la première dame Brigitte Macron. Mais pourquoi donc ces hautes personnalités de la République aiment s'afficher en compagnie de ce qui est considéré comme un trésor national en Chine, s'interroge le Parisien. Le sociologue et expert en communication Dominique Volton, interrogé par les quotidiens donc, affirme que si les politiques espèrent gagner de la popularité en caressant un panda, ils se trompent. Ce n'est pas leur rôle, ça ne les valorise pas. Les Français ne sont pas dupes. C'est nier là l'intelligence critique des citoyens qui se disent que les politiques sont prêts à faire n'importe quoi pour qu'on parle d'eux, tacle le chercheur dans les pages du Parisien qui regrette la pipolisation de tout. Et dans les pages de La Croix ce matin, la Nouvelle-Calédonie qui reçoit la visite du Premier ministre Édouard Philippe depuis samedi dernier. Selon le journal catholique, il a incité les élus locaux à engager des discussions intenses pour préparer le lendemain du référendum 2018 afin de préserver la paix dans cet archipel. Le Point signale que la visite du Premier ministre sur l'île de Lifou a été marquée par la colère des habitants confrontés à une pollution aux hydrocarbures. Le Monde rappelle que venu pour s'entretenir des enjeux institutionnels, M. Philippe est rattrapé par ce qui touche les habitants au quotidien. Halte à la pollution, politique, aidez-nous, hydrocarbures égale mort, manque de transparence égale acte criminel, les îles en danger, qui va payer? Pouvait-on lire sur les banderoles des manifestants? Et aujourd'hui, dans les réveils culturels, Toufik Hakem reçoit l'écrivain Denis Laferrière pour son roman « Les goûts des jeunes filles » aux éditions Zulma, où la recherche du plaisir constitue l'objectif même de l'existence humaine.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Dans Le goût des jeunes filles, roman sorti en 1992, revu et corrigé en 2004, Dany Laferrière s'inspire de ses souvenirs d'adolescent. C'est l'histoire de Fanfan, l'adolescent de 15 ans, qui découvre l'amour en allant trouver refuge chez un groupe de jeunes filles. Refuge car nous sommes à Port-au-Prince en 1971 et cette histoire d'initiation amoureuse a pour arrière-plan la terreur et la misère infligées au peuple haïtien par le régime dictatorial des Duvaliers et de ses redoutables tontons Macoutes. Le goût des jeunes filles ressort chez Zulma, une belle occasion pour retrouver Dany Laferrière et évoquer les temps passés.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Dany Laferrière, c'est le mois de décembre, c'est propice pour parler du passage, du temps, le temps qui passe. Alors ce roman, est-ce qu'on peut le considérer comme un roman de jeunesse? Ben oui, puisqu'il est, vous l'avez fait paraître d'abord en 1992 à Montréal, c'est-à-dire 7 ans après votre premier roman, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Et là, vous parlez un peu de vos souvenirs d'adolescent. Fanfan, c'est un peu vous, non?
Ah, mais c'est beaucoup moi, c'est beaucoup moi. Mais je fais souvent ça, j'essaie de me pister, d'essayer d'être au plus près de ce qui s'est passé vraiment, enfin, selon ma mémoire. La mémoire est de bonne ou de mauvaise humeur, ça dépend du jour. Mais finalement, c'est ce qui me permet le plus d'entrer dans l'imaginaire. C'est le réel, c'est les détails qui font vrai, c'est les petites choses, et finalement de mettre tout ça ensemble et que ce soit pas moi quelque part.
Alors ce texte, vous l'avez écrit, puis réécrit, puis adapté au cinéma, le voilà qui sort chez Zulma. C'est quoi l'histoire de ce roman? C'est quoi l'histoire du goût des jeunes filles, Dany Laferrière?
Mais c'est un roman que j'aime beaucoup, parce que je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas d'équivalent en Haïti, ni dans la partie un peu francophone de la Caraïbe. Et de romans comme ça, qui parlent des jeunes filles, du point de vue des jeunes filles d'ailleurs, même si le regard, c'est le regard d'un jeune garçon de 15 ans, Fanfan, et peut-être de son ami Gégé, qui est le guide des portes étroites et des aventures incroyables. Mais en fait, c'est un portrait de groupe, de ces jeunes filles-là, et quand j'ai voulu en lire, je n'ai pas trouvé quelque chose qui présente un groupe de jeunes filles en mouvement dans la rue, dans les restaurants, dans les soirées, et dans la vie, et au cœur même de la dictature, au moment où tout le monde rentrait précipitamment à la maison pour se cacher, et ces jeunes filles sortaient.
Et vous avez découvert l'amour sous dictature, on peut le dire?
Ah mais on découvre l'amour là où l'on est, et quelle que soit la situation. Vous savez, ces émotions quand même sont incontournables. Et quel que soit l'endroit où l'on se trouve, quand le cœur bat, il va chercher complice. Oui, le cœur est un chasseur solitaire.
Carson McLaren.
Oui.
De l'autre côté du trottoir, c'est la maison de Mickey. Toujours plein de rires, de cris, de filles. Mickey habite seul, mais elle a beaucoup d'amis. Il y a toujours 2 ou 3 voitures garées devant sa porte, prête à partir pour la plage, pour un restaurant à la montagne ou pour le bal. Tous les jours. Et moi, je dois étudier mon algèbre. S'il n'y avait que Mickey, mais voici Pascaline qui s'étire comme une chatte persane. Marie-Michel est un peu snob et Choupette aussi vulgaire qu'une marchande de poissons. la bouche méprisante de Marie Erna et les fesses dures de Marie-Flore. Les hommes ne sont pas toujours les mêmes. Quant à moi, je ne bouge pas de la fenêtre de ma petite chambre, à l'étage. Je rêve du jour où j'irai au paradis, c'est-à-dire en face. Eh ben, pour aller au paradis, il faut passer par l'enfer de la dictature, Daniel Ferrière.
Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas traverser, là oui, il s'agissait de traverser simplement la rue, mais on ne peut pas le faire sans descendre pour connaître l'enfer de la dictature. Oui, c'est vrai, c'est une petite métaphore très légère qui dit que, enfin, on connaît l'Archéon, enfin, il faut traverser le Styx quand on veut mourir. Et GG, pas chercher Fanfan, pour aller au bas de la ville, là où tout grouille, là où les masques sont portés par des monstres ou par des anges, et là où tout se frôle, là où la population est bigarrée, colorée, enthousiaste et dangereuse. Et dangereuse, et voilà un tonton Macoute qui pointe son revolver sur Fanfan, voilà Gégé qui s'en va après un moment retrouver ce tonton Macoute un peu dans une maison, et le voilà qui revient, les mains pleines de sang. Et voilà, nous sommes en pleine violence dictatoriale sur un petit détail, une petite anecdote de fin de semaine, de week-end, de deux adolescents. On va sentir un peu d'abord l'aventure, ensuite le scandale du courage, et ce jeune Gégé et qui fait face au tonton Macoute, et ensuite la peur panique totale et qu'on vienne vous chercher, que vous soyez perdu dans un...
Et puis quelle bonne idée que d'aller trouver refuge chez ses filles.
Oui, c'est ça aussi. Vous savez, quand les enfants, les jeunes, vous avez dit roman de jeunesse, et il y a toujours une part presque naïve. On a l'impression que toute la dictature a été faite pour ça, et pour que je sois pris là-dedans et que je puisse aller en face. Et Borges a une histoire où il parle du Christ, et il dit « On a inventé le fer, les clous, l'arbre, la croix, et tout ça c'est pour faire l'histoire de Jésus et sa crucifixion. » Alors on a inventé la dictature, l'horreur, même Port-au-Prince peut-être n'est que faux théâtre. Et
pour découvrir l'amour.
Littéralement pour que ce jeune garçon de 15 ans puisse découvrir l'amour.
Le goût des jeunes filles. Dany Laferrière, vous avez écrit ce roman d'abord au début des années 90, puisqu'il est paru en 1992. Vous l'avez repris. Comment on reprend un texte?
Eh bien, c'est un groupe de filles et de jeunes filles assez jeunes. Elles sont toutes en mouvement, mais on ne sait pas trop bien ce qu'elles font. Elles parlent, elles mangent. Elles sont totalement dans la vie. Il n'y a pas de situation où quelqu'un va au bureau, au travail, à l'école. Il n'y a rien de ça. C'est la liberté. Et c'est très difficile à mener de front. Finalement, j'ai vu une que je ne citais presque jamais, qui regardait par la fenêtre. C'est Marie-Michel. Je me suis demandé qu'est-ce qu'elle fait là. Et il y a une autre petite phrase écrite dans le livre que j'avais complètement oubliée, qu'elle étudiait la médecine. Ça n'a rien à voir avec ces jeunes filles qui ont fait presque pas l'école et qui sont dans une vie sans citation intellectuelle. Quoique il y a une qui lit Sagan, en fait. Et là, je me suis dit, peut-être que elle doit être une bourgeoise, elle peut tenir un journal à ce moment-là. Donc, je sortirai de cette vitalité presque explosive et trop dynamique où il n'y a presque pas de dialogue, tellement les corps seulement parlent, en dansant, en mangeant, en faisant l'amour, pour aller dans une zone plus méditative et plus réflexive, et peut-être même découvrir un autre monde. Si elle est bourgeoise, peut-être qu'elle acceptera de nous parler de sa classe, du groupe d'amis de sa mère, et qui fait un peu opposition avec le groupe d'amis qu'elle a avec toutes ces filles-là.
Ah ben ça, je comprends pas, Dany Laferrière. Vous voulez dire que l'interview qui clôt le roman dans cette édition de chez Ulma, du goût des jeunes filles, le journal aussi de Marie-Michel, tout ça, ça a été rajouté après
oui,
coup?
Oui, ça a été rajouté. J'ai ajouté le journal parce que c'est ça, je sentais le livre presque qu'il m'échappait par trop de dynamisme, par trop d'énergie, et j'ai voulu un peu ralentir la lecture en faisant lire le journal de Marie-Michel qui doit cacher ses sentiments pour être admis dans le club. C'est un club fermé, exclusivement fermé que pour les gens qui n'ont jamais ouvert un livre et qui ne font que danser, qui connaissent tout ce qui est de la vie. C'était vraiment pour poser la question de la vie face à la dictature. La dictature, c'est la monoculture, c'est imposer une culture, celle de la terreur ou complice de la terreur, dans une société donnée. À force de faire face à la dictature, avec la même violence peut-être, pour essayer de la renverser, on oublie la vie elle-même. Alors, le portrait de groupe de ces jeunes filles, c'est de montrer la vie palpitante. Et tout le monde a droit à cela. Pas seulement les intellectuels qui s'opposent à Duvalier ou les tontons Macoutes qui s'opposent au reste de la population. Donc, cette population de gens m'intéressait, d'autant plus que Haïti est un pays où l'on prise beaucoup l'intellectualité, les citations, les réflexions. J'ai voulu un groupe de filles qui nous montre qu'elles ont du courage, qu'elles ont le droit de vivre et qu'elles ont 17, 18 ans et personne ne les empêchera de vivre.
Et surtout, Dany Laferrière, c'est plutôt un roman qui se base sur les dialogues de ces filles. C'est comme si c'était un feuilleton, un sop, dans le sens noble du terme, bien sûr.
Très sop. Non, je ne vois pas de sens noble, dans le sens le plus sop du terme, j'espère. Ouais. J'espère, parce que j'ai toujours peur des sens nobles.
Oui, mais on s'attache très vite à elles, et puis à travers leur dialogue, on apprend plein de choses, et sur l'époque, et sur le pays.
Ah ben absolument, absolument, comme dans les sopes. Mais moi, au contraire, mon meilleur sop, c'est un roman de Vargas Llosa, qui est un des plus drôles que j'ai jamais lu, La Tante Julia et le Scribouillard.
Bien sûr.
Le soap, j'ai déjà vu ma mère passer des années devant la télé à regarder des soaps mexicains. Alors c'est un grand privilège, Bien sûr, il y a beaucoup de dialogues, ça ne cesse de parler. Et c'est un peu en contradiction quand c'est paru avec la littérature française qui était beaucoup dans le monologue, dans le texte écrit, alors que je voulais faire une littérature où les gens se disent bonjour quand ils se croisent, qui parlent sans cesse, et ils disent tout ce qu'ils ont. Et la parole, c'est quelque chose qui doit sortir.
Et en plus, ils incluent toute la culture populaire de l'époque. Parce que bien sûr, Niki, Choupette, Marie-Erna, Marie-Flore, Marie-Michel, Pascaline écoutent de la musique populaire.
Elles n'écoutent que ça.
Et là, c'est qui?
Ah, c'est ça, ouais, peut-être Tabou Combo, non, c'était...
Choupa.
Oui, c'est Choupa. Alors là, oh là, on est remonté très loin. Et là, c'est Choupa, c'est vrai, d'ailleurs, dont le groupe habitait tout près de chez moi. Choupa, c'est mon quartier. Le quartier s'appelle Bas Peu de Choses, imagine-moi le nom. Bas Peu de Choses. Et Choupa, c'est tout à fait ma jeunesse, c'est bien avant Tabou.
Voilà. Et c'est vraiment très bien, on écoute un extrait. Voilà, tout un groupe qui doit vous rappeler votre enfance, Dany Laferrière.
Bonne adolescence, oui, tout à fait. Mais il y en avait plein. Et il y avait Tabou Combo, Schle, Les Difficiles, Les Gypsy, Choupa. Et il y avait aussi les fantaisistes de Carrefour, qui avaient à peu près le même rythme. Et ce sont ces jeunes filles qui ont imposé cette musique parce que elles étaient les premières fans. Je parle pas uniquement de jeunes filles qui étaient en face de chez moi. Je parle de ces filles qui allaient danser chaque soir. Et pour avoir un groupe pour qu'ils puissent survivre, il faut qu'il y ait des gens qui viennent les écouter, les fanatiques, comme on les appelait. Et on les appelait aussi les lafraîcheurs. Et ces jeunes filles, parce qu'elles étaient toujours très fraîches, malgré la poussière des rues de Port-au-Prince.
J'ai l'impression que vous gardez intacts ces souvenirs, Dany Laferrière.
Oui, mais tous mes souvenirs. Naturellement, il y en a qui disparaissent. Alors, quand ça sort de la mémoire, je les oublie. Donc, j'ai pas l'impression de les perdre. Je porte en moi. Et cette époque-là, et parce qu'elle était très excitante. Elle était quand même, on dansait sur le volcan. Je suis très heureux d'avoir été adolescent sous la dictature. Je parle pas en général, je voudrais pas passer mon adolescence ailleurs que sous une dictature. Mais de n'avoir pas été adulte, de n'avoir pas eu la responsabilité et des choses, et quand Duvalier, père, était encore au pouvoir. Et je suis très heureux que j'étais dans l'irresponsabilité, que tout cela me concernait à peine et que je ne cherchais, comme les jeunes filles, qu'à vivre.
Bon. Et puis si on parlait maintenant des souvenirs, non pas de votre adolescence, non pas de cette époque que fait revivre Fanfan et les filles d'à côté, les filles chez qui il trouve refuge et qui vont l'initier aux joies de l'amour, et pas seulement aux joies d'ailleurs, si on parlait un peu des souvenirs de votre première écriture de ce roman, 1992. Vous avez des souvenirs?
Ah, oui, bien sûr. J'étais à Miami, j'entreprenais de devenir écrivain, c'est-à-dire de ne faire que cela. Alors, j'étais tout souvent chez moi, j'avais écrit en un mois L'odeur du café, et j'entreprenais ce roman, Le goût des jeunes filles.
Entouré de femmes, de vos tantes?
Oui, mes tantes.
Je pose toujours la question en disant, si je n'ai pas la réponse, ce n'est pas grave, mais est-ce que c'est vrai tout ça ou c'est de la fiction?
Ah non, c'est tout à fait vrai. Moi, j'écris précisément, j'écris pour voir si ce qui est vrai, entre guillemets,
peut devenir romanesque,
peut devenir romanesque.
Bah,
c'est ça, qui m'intéresse. Ah non, c'est vrai au point que les personnes que ça concerne peuvent accepter que oui, d'ailleurs, je leur révèle des choses qu'ils avaient oubliées, ou encore dont ils n'ont conscience, pas conscience, parce que l'observateur, l'écrivain observateur peut observer un groupe, leur interaction entre elles et toutes ces personnes-là. Et donc, je leur dis des choses. Et parce que quand on dit une chose, la chose a une réponse. Et la réponse fait partie de la chose. C'est comme quelqu'un qui écoute les deux voix qui parlent au téléphone. Donc, je peux révéler des choses. Ce que vous aviez dit là l'autre jour, vous ne saviez pas l'impact que ça a eu sur Marie-Michel. Et l'impact que ça a eu sur Marie-Michel fait partie du dialogue, puisque le visage de l'autre sera embruni. Alors, qu'est-ce qu'elle pense? Ah, mais ça ne lui a pas plu. Mais comment ça, j'ai voulu être gentil, et là, mais gentil, c'était pas une manière d'être gentil, en fait. Et là, les gens s'expliquent et révèlent les soubassements de la conversation, les choses en apparence gentilles, mais qui sont formidablement violentes. D'où ces dialogues sans cesse dans le livre.
Alors parlons justement de ces dialogues, de ce goût des jeunes filles, pour reprendre le titre de ce roman, d'Annie Laferrière, parce que c'est une initiation amoureuse dans un contexte très dur, on en parlait de la dictature, mais c'est aussi un contexte très dur pour la position sociale de ces filles, c'est-à-dire qu'elles sont obligées à un certain moment de fréquenter des personnages très peu recommandables, pour aller très vite hein, et pour ne pas donner tous les détails. Et c'est aussi l'idée, comment parler d'amour à une femme que votre roman. Alors vous n'êtes pas français, mais vous êtes académicien français, c'est la même chose, Dany Laferrière, vous faites partie de... Comment vous réagissez à l'affaire de cette année 2017, c'est-à-dire l'affaire Weinstein, je ne sais pas comment il faut prononcer, mais enfin, vous savez de quoi je veux parler?
Oui, bien sûr, oui, c'est Weinstein, et cette affaire-là, oui, elle a embrasé un peu toute la planète. Et d'ailleurs, le premier point, c'est que c'est quand même assez étonnant de voir à chaque fois qu'une affaire va devenir internationale ou planétaire, elle viendra des États-Unis. Bon, il est vrai qu'elle est venue de la zone la plus puissante des États-Unis, d'Hollywood.
L'usine de rêve,
oui. Oui, l'usine à rêve. L'usine à rêve a créé un dernier film où il n'y a pas d'acteur, où tout le monde va au tapis, et d'une certaine manière. Ça, c'est la première chose. J'ai lu dernièrement, quelque part, ou quelque chose, que les Noirs américains ne sont pas très contents. Les femmes disent, nous aussi, on est victimes et on n'a jamais été cités dans cette affaire-là. Il n'y a aucune présence. Et le journaliste, je ne sais plus, a demandé pourquoi. Il dit, mais c'est parce que on n'a jamais été si proche du pouvoir pour se faire violer par le pouvoir. On est resté au bas de l'échelle. Et on ne s'est pas approché du pouvoir. Et là aussi, c'est un point quand même à méditer. Et ce qui m'a fait essayer de voir au-delà de l'affaire, parce qu'on en a discuté amplement, il y a une ministre de la Culture du Québec qui a dit, il faudra lâcher un peu la culture. C'est-à-dire, ce ne sont pas les cinéastes, les écrivains, disons, les acteurs ou autres, qui ont agressé, harcelé des femmes dans le monde. Il y a d'autres milieux.
Il y a des milieux ministres.
Oui, d'ailleurs, puis aussi.
Des islamologues.
Des individus.
Des médecins, oui.
Des travailleurs, des gens de conditions pauvres aussi. C'est pas une affaire uniquement de pouvoir et contre les victimes. Donc elle voulait dire que le fait qu'on s'est attardé beaucoup sur la question dans la zone culturelle, c'est parce que c'est la chose la plus fragile, dans le sens, il suffit de dire d'un acteur qu'il a fait cela pour qu'il perde toute position d'un producteur, pour qu'il n'ait rien. Donc on s'est attardé parce que aussi il y a des vedettes, et donc à ce moment-là, les journalistes peuvent presser le citron jusqu'au bout. Quand monsieur un tel anonyme fait ça à madame un tel, ou mademoiselle un tel anonyme, et la presse peut en faire une page complète de ces noms-là, mais et ça ne fait pas deux jours et de médias. Donc, elle avait d'une certaine manière pointé du doigt cette façon de dire la vérité, mais que ça ne dit pas l'ample vérité, l'étendue de ce scandale. Et l'iceberg est toujours en dessous, et pas précisément parce que nous sommes dans le monde de l'apparence des médias, et ça n'a aucun intérêt pour les gens, le sort des autres, si cela ne peut pas exciter leur appétit personnel, cela ne les intéresse pas. En un mot, s'il ne s'agit pas de vedette. Et le troisième point, c'est la démocratie elle-même qui est en danger dans cette histoire. L'Occident a tellement travaillé pour cette démocratie, la démocratie, la justice, le contre-interrogatoire, l'instruction, des choses extrêmement compliquées à mettre en place pour que la vérité puisse apparaître. Donc cette démocratie qui a été mise en place a été sabordée littéralement. Parce que ça aurait été bien qu'on puisse les condamner au tribunal. Et ça aurait été bien qu'on ait l'impression qu'il y a eu justice et non seulement apparence de justice. Ça aurait été bien qu'on ait l'impression que même à Nuremberg, on a voulu faire un procès, au moins. À Nuremberg, qu'on puisse faire un procès, au moins ici. Mais pas le procès et dans les médias technologiques, mais le vrai procès selon les règles de cette justice que l'Occident a tant travailler pour mettre en place.
Merci Daniela Ferrière, merci d'être passé. Je rappelle la sortie d'un des romans de votre jeunesse, on peut appeler ça un roman de jeunesse. Hein.
J'espère, éternellement jeune.
Le goût des jeunes filles chez Zulma. Merci d'être passé ce matin.
Le Réveil culturel a été réalisé par Vincent Bouchard. Vous pouvez podcaster cette interview de Toufik Hakem sur les sites franceculture.fr. Et aujourd'hui, vous trouverez sur France Culture à 9h05 La Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin s'intéresse à l'évolution de notre sensibilité à la mort et aux morts. Que faire de nos morts? À 10h, Les Chemins de la Philosophie d'Adèle Van Rett est consacré à Orson Welles. France Culture, il est 6h26 et le titre du jour de ce matin fait partie de la bande originale rétro et nostalgique du film Les Gardiens de la Galaxie volume 2 du réalisateur américain James Gunn. Il s'agit de la chanson Mr. Blue Sky du groupe Electric Light Orchestra. La musique est un composant essentiel dans Les Gardiens de la Galaxie puisque le personnage principal, Star-Lord, a tout le temps avec lui un ancien Walkman que sa mère lui a donné sur son lit de mort. Et la cassette en question est entièrement composée des tubes pop-rock-soul des années 70. On écoute donc Mr. Blue Sky, histoire de bien démarrer la semaine. Blue Sky est une chanson de 1977. Elle a été composée par Jeff Lynne et fait partie du double album Out of Blue. Et nous poursuivons les petits matins avec à 6h40 le journal des idées de Jacques Meunier. Bonjour Jacques.
Bonjour Dani, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous vous intéressez à la logique publicitaire qui s'immisce partout.
Voilà, et notamment voilà ce que font la com et la télé à la politique, aux idées, à l'information et même à la littérature.
À tout à l'heure Jacques. Et à 6h45, les enjeux internationaux de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Dani.
Alors aujourd'hui, la question de la crise post-électorale au Honduras, soupçons de fraude, contestation et autoritarisme. Est-ce que les Honduras représentent un nouveau problème latino-américain ?
Et oui, c'est une des questions parmi d'autres que va faire, que va dire la communauté internationale après une semaine de crise politique ouverte et déjà des morts par balles. La contestation de l'élection présidentielle fait en effet ressurgir le spectre du coup d'État.
À tout à l'heure, Xavier. Et à 6h57, l'humeur du jour de Guillaume Herner.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
France Culture présente Price, la dernière création collective de Rodolphe Dana. Le capitaine de l'ex-collectif des possédés s'empare du grand roman d'apprentissage de Steve Tezich. Comment se construire un destin quand on vit ses derniers mois au lycée et qu'on n'entrera pas à l'université? Comment ne pas reproduire la vie ratée de ses parents? Avec des comédiens au plus juste, Rodolphe Dana nous emporte dans les tourments du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Price, du 5 au 9 décembre, au Théâtre de l'Idéal, à Tourcoing. Un partenariat France Culture.
France Culture, il est 6h30 à Paris. Le temps de retrouver le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Dani, bonjour à tous. Et les nationalistes sont les grands vainqueurs du premier tour des élections territoriales en Corse. La liste conduite par Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni remporte 45,36% des voix. Un score historique fêté hier soir par les militants à Bastia, où se trouvait Mathieu Mondoloni.
Ils étaient plus d'une centaine rassemblés devant la permanence de campagne pour célébrer cette victoire avant l'heure et surtout pour venir acclamer celui qui en est à l'origine.
C'est Gilles.
Gilles Simeoni, la tête de liste.
Les Corses, de façon très majoritaire, de façon massive, à travers un véritable raz-de-marée démocratique sans précédent dans l'histoire de l'île, viennent de dire à Emmanuel Macron, le moment est venu d'ouvrir le dialogue, de reconnaître notre peuple et de construire une solution politique, et notamment au plan institutionnel, avec un statut d'autonomie.
Avec plus de 45% des voix au premier tour, les nationalistes réalisent un score historique qui a même surpris certains militants comme Jean-Marie et Isabelle.
C'est difficile d'imaginer un tel raz-de-marée.
Honnêtement, nous n'attendions pas un tel résultat. Et on sent donc un élan de démocratie qui souffle sur la Corse et nous en sommes très fiers.
Le peuple est constitué et a besoin de marcher. C'est le refrain de cette chanson indépendantiste très connue en Corse. Des paroles symboliques qui disent aussi que l'heure de la liberté a sonné et que le français ne peut que reculer.
Et parmi les revendications des nationalistes, effectivement, la co-officialité de la langue corse aux côtés du français ou l'amnistie pour les prisonniers et les recherchés dits politiques. J'ajoute que l'abstention lors de ce premier tour a été forte, une abstention de près de 47%. Le candidat de la droite régionaliste est arrivé deuxième avec un peu moins de 15% devant le parti Les Républicains et La République En Marche. Second tour prévu dimanche prochain. Un bug informatique, c'est ainsi que le PDG de réseau SNCF, de SNCF Réseau a justifié la nouvelle panne géante qui a paralysé hier le trafic ferroviaire en gare Montparnasse à Paris. Nouvelle panne, oui, parce qu'il y en avait déjà eu une en juillet dernier. Cette fois, la SNCF se satisfait d'être allée beaucoup plus vite pour la réparer. Le trafic a repris ce matin. Mais Patrick Jeantet, le PDG de la SNCF Réseau, est convoqué par la ministre des Transports ce matin à 9h. Elisabeth Borne évoque un incident inacceptable. Édouard Philippe est toujours en visite en Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre y prépare le référendum sur l'indépendance qui aura lieu l'année prochaine et il se veut rassurant. L'État, dit-il en substance, ne se désengagera pas, quel que soit le résultat de ce référendum. Aujourd'hui, Édouard Philippe était dans la province nord, nettement défavorisée jusqu'ici par rapport à la province sud et à Nouméa. Alors cette province tente de se développer économiquement. Visite suivie à Koné par Stéphane Robert.
En province nord, dirigée par les indépendantistes kanak, quel que soit le lieu où se déplace le Premier ministre, il y a des champs pour l'accueillir. Ici, depuis quelques années, autour d'une nouvelle usine de nickel co-gérée par les indépendantistes et la société Glencore à Koné, on essaie de développer une zone économique pour opérer un rééquilibrage avec la zone de développement quasi exclusive centrée sur Nouméa. s'y implantera bientôt un centre universitaire dont Édouard Philippe a inauguré la première pierre ce matin.
C'est évidemment majeur pour le développement de la Nouvelle-Calédonie. Et tout ce qui est fait pour le développement de l'enseignement, c'est également une réponse de fond à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est la raison pour laquelle l'État a joué et continuera à jouer son rôle en la matière. Parce que plus que la controverse juridique, préparer l'avenir, c'est préparer les esprits, c'est préparer les intelligences, c'est préparer la capacité d'apprendre ensemble, en travaillant et en discutant. Et au fond, c'est ça l'université.
Il s'agit ici à la fois de favoriser l'éducation des jeunes Kanaks, mais aussi de lancer des pôles de développement économique en dehors de Nouméa. Mais cette ambition-là se trouve fragilisée par le fait que l'économie calédonienne est encore beaucoup trop dépendante du nickel, dont le cours atteint à peine le seuil de rentabilité et dont on a peu d'espoir qu'il remonte dans les prochaines années.
Notre envoyé spécial Stéphane Robert a conné en Nouvelle-Calédonie pour France Culture.
Les négociations sur les Brexit à présent, Clara, elles doivent reprendre aujourd'hui à Bruxelles.
Réunion très importante entre le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le chef des négociateurs communautaires, Michel Barnier, et la première ministre britannique, Theresa May, qui doit convaincre les Européens que ses promesses sont suffisantes pour enclencher le Brexit et entamer des négociations commerciales. A priori, le montant de la facture de ce divorce serait acté, mais au Royaume-Uni, la dirigeante fait toujours face aux critiques de certains membres de son propre gouvernement. On lui reproche notamment son manque de stratégie et de leadership, Marina Daras.
Theresa May n'a cessé de répéter qu'elle voulait un gouvernement fort et stable. Elle n'a malheureusement pas réussi son pari et semble s'accrocher tant bien que mal aux rênes du pouvoir. Hier encore, un de ses conseillers quittait le gouvernement en emmenant avec lui toute son équipe pour protester contre le déséquilibre social qui, d'après eux, ne fait qu'empirer sous Theresa May. Elle est la cible de critiques régulières de la part de quelques membres de son parti qui voudraient la pousser vers la sortie. Mais pour beaucoup de conservateurs, Theresa May est certes affaiblie depuis le désastre des élections générales du mois de juin, mais ira bel et bien au bout de son mandat, faute de remplaçants crédibles. Et pourtant, ses décisions ne sont pas du tout populaires, tant dans le camp des pro-Brexit que chez les pro-européens, notamment sur la question de la facture du Brexit qui pourrait finalement s'élever à plus de 50 milliards d'euros. Mais le Parti conservateur n'a fait aucun effort pour recruter de nouvelles têtes et les candidats qui souhaiteraient prendre sa place ne parviennent toujours pas à faire l'unanimité. Et bien que les négociations sur le Brexit se compliquent chaque jour, c'est peut-être ce qui finalement sauvera Theresa May, car changer de Premier ministre alors que le pays joue son avenir serait un pari bien trop risqué pour les Britanniques.
Après 40 ans de vie carcérale, Patrick Henry est mort hier au CHU de Lille des suites d'un cancer des poumons. Patrick Henry avait été à la fois le symbole d'un crime atroce, l'enlèvement et l'assassinat du petit Philippe Bertrand, 7 ans, c'était en 1976. Symbole aussi du combat contre la peine de mort à laquelle il a échappé de justesse, puis de la réinsertion ratée. Et toute une page de l'histoire judiciaire, Sarah Guibaudot.
30 janvier 1976, le petit Philippe Bertrand est enlevé contre une rançon d'1 million de francs. Patrick Henry, 22 ans, est arrêté puis relâché et clame son innocence.
Écoutez, ça fait mal au cœur pour les parents et puis surtout pour le petit garçon.
Le garçonnet est déjà mort, son corps sera retrouvé 2 semaines plus tard.
TF1 20h avec Roger Gicquel.
La France a peur.
La foule devant le palais de justice de Troyes demande la tête de Patrick Henry. Verdict, la réclusion à perpétuité, son avocat Robert Badinter.
Se prononcer à propos du problème de la peine de mort dans l'abstrait, c'est, je dirais, commode. Vient le moment de la réalité. Vous devez vous jurer. Décidez que vous allez tuer quelqu'un qui est devant vous.
Vous n'aurez pas à le regretter, lance Patrick Henry. Détenu modèle, il est libéré en 2001, mais réincarcéré l'année suivante pour trafic de drogue. La justice lui refusera ensuite toute libération conditionnelle, malgré le soutien de Martine Weiss, une visiteuse de prison devenue son amie.
C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir des problèmes de santé. Il a arrêté de se battre dans l'espoir de sortir. Et il est sorti que par la maladie. Hein. Son nom véhicule la haine. Il portait un costume trop grand. Hein.
Martine Weiss se félicite que Patrick Henry soit mort entouré de ses proches et sans regard hostile.
Quelques mots pour finir de la météo du jour. L'alerte neige-verglas est levée par Météo France ce matin. Elle concernait depuis ce week-end le quart nord-est du pays. Aujourd'hui, le ciel restera bien gris. Les seules éclaircies seront près des côtes et les températures remontent légèrement. 2 à 6 degrés au nord, 7 à 12 au sud. Votre revue de presse à présent, Dany, intrigante ce matin. Vous revenez sur l'existence d'un club, un groupe de personnalités ultra sélectifs et surtout très puissants.
Absolument, Clara. Et c'est le journal du dimanche d'hier qui s'est intéressé aux Bilderberg, les clubs les plus fermés du monde, qui rassemblent depuis 1954, tous les ans, 130 personnalités influentes des puissances occidentales. Le groupe Bilderberg, également appelé Conférence Bilderberg, a été créé par les milliardaires américains David Rockefeller et les princes Bernard des Pays-Bas. Chef d'État, ministre, patron de banque, PDG des multinationales, militaires, universitaires sont priés de venir seuls, sans conjoint ni garde du corps. Et comme rappelle le JDD, la loi du secret qui règne alimente les thèses complotistes. Selon Laurent Valdiguier, auteur de cette enquête, quoi qu'il en soit, le secret qui entoure les discussions fonctionne comme du charbon dans la locomotive à fantasmes anti-américain, anti-média et anti-mondialisation. Mais justement, de quoi parlent les personnalités les plus influentes d'Europe et d'Amérique du Nord lors de ces mini Davos? Eh bien, si à l'origine l'objectif était d'établir une stratégie à peu près commune face à l'Union soviétique, aujourd'hui il est question de réfléchir aux défis auxquels sont confrontées les puissances occidentales. Ainsi, chaque printemps, la centaine d'invités convergent vers un hôtel de luxe privatisé. Pendant ces 3 jours, précise Laurent Valdiguier, tous les invités, quelles que soient leurs fonctions ou leur fortune, sont installés par ordre alphabétique sans aucun protocole particulier. L'un des participants qui s'est confié au JDD commente encore médusé la charge d'un jeune inconnu qui, au printemps 2014, devant 130 personnes, a pris la parole pour dire tous les mal qu'il pensait de la politique menée par François Hollande. Il s'agissait de l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, Emmanuel Macron. 9 jours plus tard, Emmanuel Macron quitte l'Élysée. Les 10 juin, il annonce qu'il souhaite mener des projets personnels dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. La suite de l'histoire est connue de tous.
Le journal des idées, Jacques Munier.
France Culture, il est 6h40. Bonjour Jacques.
Bonjour Dany.
Plusieurs publications et sites d'information s'intéressent à ce que la com et la télé font à la politique, aux idées, à l'information et même à la littérature, Jacques.
Oui Dany, dans sa chronique médiatique de l'Obs, Jean-Claude Guibaud dénonce la logique marketing qui a pris le pas sur le militantisme et il attribue cette dérive américaine à l'augmentation exponentielle du coût de la politique. La dernière campagne présidentielle outre-Atlantique, évaluée à 3 milliards de dollars, aura été la plus coûteuse de toute l'histoire américaine. Même si chez nous, les coûts sont bien moindres, les partis politiques dont l'existence et l'activité sont nécessaires à la démocratie se sont enfermés dans un cercle vicieux. Plus ils sacrifiaient à la logique publicitaire et plus ils aggravaient mécaniquement le discrédit qui pèse sur eux, d'où la nécessité d'en rajouter avec cette pub substituée à la vertu citoyenne. D'autant que l'envolée des coûts a introduit dans la vie publique une logique censitaire, celle qui tend à réserver aux riches la représentation démocratique. C'est ainsi qu'aux États-Unis, les candidats sont forcément des fils de familles fortunées, tandis que, à l'inverse, les plus pauvres prennent l'habitude de ne plus voter. Dans ce pays, c'est dès les années 30 que la confusion entre marketing et politique s'est établie. Bon nombre des outils ou des théories employées en études de marché provenant du marketing politique et non l'inverse. Dans un livre des années 60, mais toujours d'actualité, Le triomphe de l'image, une histoire des pseudo-événements en Amérique, Daniel Borstein estimait que c'est une hypertrophie de nos besoins, ce qu'il appelait des attentes démesurées, qui serait à l'origine de cette confusion et fuite en avant. Toujours plus de nouvelles dans le journal, de nouveaux héros à chaque saison, des chefs-d'œuvre littéraires à chaque rentrée, des voitures de luxe pas chères, des voyages exotiques en toute sécurité et l'aventure à bon marché. Face à cette demande en grande partie suscitée par lui, un système tentaculaire propose ses artifices, des célébrités renommées pour leur renommée, des best-sellers qui se vendent parce qu'ils se sont vendus, des informations pour meubler le néant, ce que l'auteur appelle des pseudo-événements. Ce que fait la télé à la politique aujourd'hui, le site de la CRIMED, l'Observatoire critique des médias, en en donne une idée en présentant le livre de Brigitte Legrignoux et Éric Neveu, Sociologie de la télévision, publié à La Découverte, Déshabiller les politiques pour faire apparaître la personne, Marine Le Pen et son ambition intime, Effacer les idées.
Et les modèles économiques de la consommation, c'est donc un paré de la politique, mais aussi de l'information, voire même de la littérature.
Oui, dans Mediapart, Nicolas Becquet s'inquiète de ce que Facebook verse des millions d'euros à plusieurs grands médias français pour produire des contenus vidéo sur son réseau social. Une pratique qui pose la question de la dépendance des rédactions et ouvre la voie à un système à deux vitesses pénalisant les petits médias. On s'alarme du manque d'indépendance des médias face aux actionnaires industriels milliardaires. Et pourtant, ces mêmes médias permettent l'instauration progressive d'une menace tout aussi toxique pour leur avenir et la démocratie, celle du soft power, de l'argent, de l'écosystème des GAFA. Pour Marianne, l'hebdomadaire, Sébastien Lapacq a lu le livre de Vincent Kaufmann, Dernière nouvelle du spectacle, ce que les médias font à la littérature, publié au Seuil. Selon lui, les écrivains vus à la télé feraient passer le souci de leur image avant celui de la langue, dont ils sont pourtant les artisans, voire les inventeurs. L'auteur, en régime télévisuel, je cite, n'est plus l'agent d'un jeu de langue, mais un fonctionnaire au service d'une économie de l'attention. Une économie résumée autrefois par Patrick Lelay dans cette formule à propos du business model de TF1. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Vendre de l'audience, c'est la mort de la critique et l'avènement de l'empire du moi, puisque ce qu'on demande aux écrivains désormais, c'est de parler d'eux-mêmes et surtout pas de leurs livres. Du coup, certains sautent les cases et se font chroniqueurs comme Christine Angot pour causer dans le poste sans plus avoir besoin de l'alibi d'un roman. Et pour finir, voici, Dany, quelques trucs des politiques inventés par le marketing. Si l'humour permet de maintenir le lien avec les partisans résolus, la menace et le ton apocalyptique s'avèrent plus efficaces pour convaincre les opposants et leur faire tourner casaque. Donc, ceux qui doivent ratisser large auront davantage de succès avec un discours alarmiste, au hasard sur l'envahissante immigration ou l'insécurité galopante, qu'avec les propos teintés d'ironie d'un candidat normal. Car en politique, s'il est parfois dur d'être normal, il est en revanche normal d'être dur.
La chute est parfaite, Jacques. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Je reviendrai.
Vous pouvez bien entendu podcaster le journal des idées de Jacques Meunier sur les sites franceculture.fr. Et aujourd'hui, sur France Culture, à midi, la grande table d'Olivia Gesbert reçoit l'écrivain Jean Echenoz à l'occasion de l'exposition Jean Echenoz, roman, rotor, stator à la BPI. Et à 15h, la compagnie des auteurs de Mathieu Garrigou-Lagrange est consacrée à aidez-moi. Voilà, Jorge Luis Borges.
Jorge Luis Borges.
Oh, merci Jacques, merci.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Vous êtes sur France Culture, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dany.
Vous discutez aujourd'hui avec la journaliste Hélène Roux, en direct de la capitale du Honduras, Tegucigalpa. Vous évoquez la crise politique au Honduras, Xavier.
Et oui, puisque nous sommes une semaine après l'élection présidentielle, le Honduras n'a toujours pas de président, les manifestations continuent pour dénoncer des fraudes, le couvre-feu a été instauré et l'opposition, on l'apprend il y a quelques heures, appelle l'armée à se rebeller. Bonjour Hélène Roux.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être au téléphone en direct, effectivement, de Tegucigalpa avec nous, journaliste, observatrice au Honduras pour les élections pour l'ONG France-Amérique latine. Alors, depuis une semaine, l'opposition de gauche accuse le président sortant de voler la présidentielle. Les voix sont toujours en recomptage. Ces élections sont les troisièmes depuis un précédent coup d'État en 2009 qui avait destitué le président Zelaya. C'est donc un test à plusieurs niveaux. D'abord pour l'histoire démocratique hondurienne, ensuite pour la classe politique du Honduras, puisque c'est sa capacité à se renouveler hors des voies classiques de la fraude et de la violence qui est mise à l'épreuve, et pour la communauté internationale aussi, c'est un test, puisqu'après avoir dénoncé assez mollement le coup d'État de 2009, elle a réagi plus sèchement pour d'autres affaires, hein, en Équateur ou au Venezuela. Ira-t-elle jusqu'à dénoncer l'attitude de tel ou tel camp? Voilà beaucoup de questions. Plus fondamentalement, je rappelle juste que le Honduras est un pays petit, Haïti de 9 millions d'habitants, 60% sous le seuil de pauvreté, rongé par le crime et dépendant de grands parrains peu regardants parfois. Peut-il aisément se sortir d'une certaine brutalité politique? Un point peut-être, Hélène Roux, pour commencer sur la situation dans les rues et la situation politique. Donc je le disais, couvre-feu, mais encore des manifestations très très importantes il y a quelques heures, là, puisque c'est le début de la nuit pour vous.
Oui, alors aujourd'hui il y a une marche, une manifestation absolument massive, non seulement dans la capitale mais dans la plupart des villes du pays. C'était une véritable marée humaine qui a commencé donc à 11h du matin et qui s'est prolongée jusque dans l'après-midi. Et puis après les gens sont rentrés chez eux effectivement parce que le couvre-feu prend effet à 6h du soir, donc à partir de 5h déjà, on observe quand même une certaine tension dans les rues, chacun essaie de rentrer chez lui à l'heure. Et puis surtout, le soir, dès 7h, il y a des consignes pour faire des concerts de casseroles, donc à une heure précise, les gens sortent sur le pas de leur porte et on entend des concerts de casseroles dans toute la ville qui sont vraiment très très bruyants. Par contre, cette nuit, on vient d'apprendre le décès par balle d'un jeune de 27 ans. Donc l'armée fait des incursions dans certains quartiers et réprime à balles réelles. Donc on vient d'apprendre là le décès d'une personne.
Alors ça porte à au moins 4 donc le nombre de personnes tuées je crois depuis le début de la semaine. Donc on sent une situation disons sur le terrain très tendue, vous le dites, une répression aussi assez brutale. Sur la question politique du recomptage des bulletins, puisque c'est ce qui est en cours avec vraiment un véritable feuilleton depuis le début de la semaine, on donnait le candidat de l'opposition gagnant au début à plus 5% des voix, puis il y a eu un basculement. Aujourd'hui, les scores, puisque le recomptage a repris il y a quelques heures aussi, on en est à 42,92% je crois pour le président et 41,42% pour donc Salvador Nasralla, son opposant. Est-ce que ce score a changé? Jusqu'où peut aller ce recomptage? Selon vous, ça vaut encore quelque chose dans la situation actuelle?
Alors, la situation est assez surréaliste parce que donc pendant que dans les rues on tire sur les gens, au centre de comptage, donc on a commencé à recompter le contenu de 1000 urnes qui seraient disons litigieuses et en fait on ne sait pas du tout puisque l'opposition a demandé que 5000 urnes soient recomptées. Le tribunal suprême électoral a insisté ou a refusé et a accepté que le comptage de ces 1000 urnes. Cela dit, on a vu en direct des comptages de votes qui sont enroulés et non pas pliés. Enfin, c'est quelque chose d'assez chaotique. Et puis surtout, il faut dire que la tendance des votes s'est inversé après quand même 5 heures de panne du système informatique.
Oui, c'est ça.
Du Conseil du Tribunal suprême électoral.
Oui, c'est cette panne qui a eu lieu mercredi, effectivement, des bizarreries informatiques un peu en pagaille. Alors, effectivement, vous l'avez dit, il y a un litige également sur la question du nombre d'urnes qu'il faut recompter. Donc, c'est 1000 qui sont prévus par le Tribunal suprême électoral, à peu près 5% des voix. L'opposition demande 5000, on arrive à 30% des voix. C'est effectivement très important comme recomptage, c'est pas rien. Je le disais aussi, donc le président et le gouvernement ont décrété cet état d'urgence. Aujourd'hui, Salvador Nasralla appelle l'armée donc à se rebeller, à ne pas appliquer cet état d'urgence. Quelle similitude avec le coup d'état de 2009 où l'armée avait effectivement destitué, alors là c'était différent, un président Zelaya qui briguait un second mandat, ce qui est normalement, il faut le dire, interdit par la constitution du Honduras, ce qui est le cas pour Hernandez, le président actuel.
Oui, alors il faut préciser que c'était en fait le président Zelaya à l'époque ne brillait pas un second mandat. Il avait engagé une consultation pour savoir si lors des élections qui étaient prévues donc quelques mois plus tard, il fallait mettre une quatrième urne qui aurait pu faire des réformes à la Constitution, notamment convoquer une assemblée constituante.
Ah, différent.
Donc, la situation est... Alors, évidemment, à l'époque, le prétexte qui a été pris, c'était de dire que le président Zelaya, justement, avait l'intention de briguer un second mandat qui, effectivement, est totalement contraire à la Constitution. Or, le président Hernandez, donc actuel, quelques années plus tard, a entériné une réforme à la Constitution qui lui a permis de présenter sa candidature. Et cette candidature a été acceptée par le tribunal suprême électoral. Donc il faut quand même préciser qu'il a été élu avant l'entrée en fonction du nouveau Parlement. Donc il a été élu par le Parlement qui était à l'époque présidé par Orlando Hernández.
C'est ce qui fait que depuis 2015, je crois déjà depuis 2015, on a vu un certain nombre d'articles, notamment aux États-Unis, dire que le cercle du coup d'État, pour reprendre l'expression du Los Angeles Times à l'époque, se dessinait clairement à travers cette manœuvre à travers la Cour suprême. Aujourd'hui, justement, je repose ma question, mais l'armée qu'on n'a pas entendu prendre position politiquement, est-ce qu'elle pourrait intervenir, selon vous? Ça semble une hypothèse qui est évoquée au Honduras.
Alors, il y a quelques heures de ça, le général retiré Romeo Vázquez, qui a eu un rôle très important pendant le coup d'État, a fait savoir que son uniforme était prêt pour rétablir la paix au Honduras. Donc c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Ça pourrait effectivement être une menace de coup d'État. C'est une éventualité qui n'est pas impossible ici.
Bon, et toute dernière chose, si on peut espérer une médiation, une tentative d'apaisement, est-ce qu'on peut compter sur la communauté internationale qui a été assez prudente, je le disais en introduction, du moins dans la première partie de la semaine? Là, on a vu quelques déclarations de la part de l'Union européenne qui appelle à une cessation des violences, de la part de l'OEA, l'Organisation des États américains également. Il y a des comités des droits de l'homme qui bougent du côté de Washington. Est-ce que tout ça peut suffire à, disons, à ramener l'une ou l'autre partie à une certaine conciliation, volonté de conciliation?
Pour l'instant, ça semble assez mal engagé, puisqu'ils n'ont même pas pu se mettre d'accord sur les modalités de recomptage des voix. Le gouvernement actuel et le président candidat jouent quand même une partie très serrée en ce qui concerne sa réélection et sa... puisqu'il a été, disons, impliqué dans un certain nombre de scandales qui pourraient l'amener à répondre devant la justice.
Ouais.
Donc il y a cet enjeu-là. Et puis il faut rappeler quand même que pendant le coup d'État de 2009, il y a eu... Le gouvernement de facto a ignoré totalement les avertissements de la communauté internationale. Ça a été quelque chose de très brutal. Et là, il est difficile. Alors l'OEA vient de se prononcer pour suggérer qu'on recompte donc les 5000 voix, les 5000 urnes contesté. Ça semble être un appel du pied.
Eh bien, on verra. On verra si cet appel du pied est suivi. Pardon, je vous interromps, mais on va rendre l'antenne. Merci en tout cas d'avoir pris le temps en direct de Tegucigalpa. Hélène Roux, sociologue, journaliste indépendante, observatrice pour l'ONG France-Amérique latine au Honduras. Merci.
Merci beaucoup Hélène Roux. Merci beaucoup Xavier Martinet. Vous pouvez podcaster cette interview sur les sites franceculture.fr. Voilà, Guillaume Bernard vient d'arriver. Et je me demande bien quelle est son humeur du jour. Alors Guillaume, tout roule ?
Eh ben tout roule, Dani, sauf les trains. Et c'est tout de même la principale nouvelle de cette matinée. Et pas seulement pour notre réalisateur Jean-Christophe Francis, qui a réussi à faire un La Rochelle-Paris hier. On peut l'applaudir.
Bravo.
Ça relève de la prouesse absolue. Reste à comprendre donc ce qui s'est passé hier. Analyser les causes de la panne informatique, puisque c'est une panne informatique qui a suscité ce gigantesque chaos. Comment l'informatique nous fait perdre du temps, alors qu'il est théoriquement censé donc nous en faire gagner. Le bug de la SNCF, il a été prévu, figurez-vous, en 1987, par un économiste, Robert Solow, lequel a donné son nom au paradoxe de Solow, que l'on peut résumer comme suit. Les ordinateurs sont partout, sauf dans les gains de productivité. Traduction, l'ordinateur nous fait perdre du temps. Ce ne sont pas les voyageurs de la gare Montparnasse hier qui prétendront le contraire, d'autant que c'est la deuxième fois cette année qu'un bug informatique rend les déplacements en train cauchemardesques. Le paradoxe de Solow permet d'expliquer pourquoi tout le temps gagné grâce aux lignes à grande vitesse peut être anéanti par un souci de code qui fait s'effondrer l'ensemble du réseau. Mais même sans penser à la gestion des aiguillages de la SNCF, parce qu'on n'y pense pas tous les jours, chacun d'entre nous connaît des gens dont la productivité a considérablement chuté depuis l'apparition de l'informatique. Combien de nos amis perdent leur vie au bureau sur Facebook, YouTube et autres sites? Combien de personnes passent leur vie à détruire de la valeur en regardant des vidéos de chaque qui lancent des balles en trollant leurs semblables sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, plus généralement, si l'on détruisait tous les ordinateurs, certaines tâches aujourd'hui automatisées devraient être effectuées par des humains, certes, mais pour le reste, quel temps gagner à ne plus répondre à des emails débiles ou à des sollicitations sans intérêt? Cassons donc dès maintenant nos ordinateurs pour ne pas laisser nos informaticiens les empêcher de fonctionner.
Et voilà, Guillaume, puisque c'est comme ça, je propose un détox digital dès ce matin. Ça vous va?
Absolument, dès maintenant.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Oh, il n'y a pas que l'amour dans la vie.
Non, il y a aussi la fin de l'amour, Dani, c'est-à-dire souvent le divorce. La réforme en cours au sujet de la garde alternée n'est pas allée à son terme. Comment expliquer cette renonciation? Faut-il modifier les dispositions légales prévues en cas de séparation? On en parle aux environs de 7h40 et il sera aussi question du Bitcoin, cette nouvelle devise. S'agit-il d'une bulle? Voilà, dans quelques instants. 7h sur France Culture.